Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire, octobre 2017. Je salue de tout cœur tous les véritables croyants bibliques de tous les pays et de toutes les langues, dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec les paroles de 1 Timothée 6, 13 à 15. Je te recommande de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ceci est l'un des passages le plus important concernant la charge que Dieu a donnée, avant le retour de Christ. Il s'agit ici de l'accomplissement d'un mandat divin, qui doit être exécuté de manière à ne laisser aucune tâche et aucun reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'appel sans commission, et il n'y a pas de commission sans appel. Est-il possible d'exécuter un mandat divin? Oui, cela est possible, avec l'aide de Dieu. Il est écrit de Noé, qu'il exécuta exactement tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6, 22. De même, Moïse et Aaron firent exactement ce qui leur avait été ordonné. Exode 7, versets 6, 10 et 20. Élie put dire, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. 1 Rois 18:36. Concernant son ministère, Jean-Baptiste pouvait se référer à Ésaïe 40:3. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Jean 1, 23. Le Seigneur lui-même dit de lui. C'est celui dont il est écrit. Malachie 3, 1. Voici, j'envoie mon messager, devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Lorsque le Seigneur lui-même donne des commissions spéciales, qui sont reliées au plan du salut, alors il accorde aussi la grâce et la force, afin de les exécuter avec précision. Paul témoigna, en conséquence, « Je n'ai point résisté à la vision céleste. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Actes 26, 19 et 22. Cette expression, « sans m'écarter en rien », est très importante, car dès le premier verset du Nouveau Testament, il est question de l'accomplissement de toutes les prophéties et promesses de l'Ancien Testament. Notre Seigneur l'a confirmé après sa glorieuse résurrection. C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Luc 24, 44. Dans notre temps, tout ce qui a été prédit pour la période avant le retour de Christ, doit s'accomplir, y compris les promesses que Dieu a données dans Malachie 4, 5 et 6. Voici, je vous enverrai, Élie, le prophète. Dans Matthieu 17, 11, et dans Marc 9, 12, notre Seigneur a confirmé cette promesse après le ministère de Jean-Baptiste, comme devant encore s'accomplir. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. C'est ce qui s'est produit par le ministère unique de William Branham. Il a apporté au peuple de Dieu le message pur et uniquement fondé sur la Bible, comme cela lui a été déclaré, de la nuée et surnaturelle, le 11 juin 1933. Et il a aussi accompli l'ordre qu'il lui avait été donné du Seigneur, le 7 mai 1946, à savoir de prêcher l'évangile aux nations, accompagné du don de guérison divine. Moi aussi, j'ai exécuté ce que le Seigneur m'a ordonné quand il m'appela à son service, le 2 avril 1962. J'ai prêché la parole de Dieu. 2 Timothée 4, 1 à 5. Et j'ai distribué la nourriture spirituelle. Matthieu 24, 45 à 47. Comme cela m'a été ordonné. Dans 1 Corinthiens 4, 1 et 2, l'apôtre écrivit en se référant à son appel, ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est maintenant le temps, avant le retour de Christ, dans lequel l'entière et pure parole révélée, tout le conseil de Dieu, est annoncé. Dans Éphésiens 5, Paul donne des instructions pour la vie pratique des rachetés, et démontre ce que l'acte de rédemption du Christ produit dans les croyants qui acceptent chaque enseignement de la parole, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26. Un bain complet dans la parole de Dieu, après lequel aucune tache et aucun reproche ne peut subsister, est tout aussi important que le plein pardon, la réconciliation, et la justification par le sang de Christ. Romains 5, 9. Le dernier ministère doit inclure l'évangélisation, l'enseignement et la partie prophétique. Il doit être sans tache devant Dieu, afin que le Seigneur puisse accomplir cette parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. En effet, le résultat du dernier message parole sera la transformation de l'Église épouse en une pure épouse parole, sans aucune tache. Tout d'abord, il est question de l'appel à sortir des croyants, du milieu de toute confusion religieuse. Ceci est un commandement du Seigneur. Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ensuite vient la sanctification par la parole de la vérité. Jean 17, 17. Pour laquelle notre Seigneur pria, sanctifie-les, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le commandement de l'heure est la préparation des vrais croyants pour l'enlèvement, lors du retour de Christ, que manifestera en son temps, le bienheureux et seul souverain. 1 Timothée 6, 15. Le temps est proche. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. 1 Thessaloniciens 3, 13. Paul a écrit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 13. Amen. Dans sa prédication du 25 novembre 1965, frère Branham dit, « Vous êtes l'épouse pure, vertueuse et innocente du Fils du Dieu vivant. Chaque homme et chaque femme qui sont nés de l'Esprit de Dieu et qui sont lavés dans le sang de Jésus-Christ et qui croient chaque parole de Dieu se tiennent là comme s'ils n'avaient jamais péché. Vous êtes parfaits par le sang de Jésus-Christ. » Celui qui ajoute, ou qui ôte quelque chose. Dans la grande réunion internationale tenue à Bruxelles le 11 juin 2017, nous nous sommes souvenus du mandat divin de frère Branham, le 11 juin 1933. Le 12 juin 2017 me rappela ma conversation que nous avons eue avec frère Branham le 12 juin 1958, à Dallas au Texas. À la fin de cette conversation, il me dit, « Frère Franck, tu retourneras en Allemagne avec ce message. » Après notre entretien à Dallas, frère Branham dit tout au début de sa prédication, « Nous voulons voir Jésus. » Il y a juste un instant, un homme venant d'Allemagne m'a entouré de son bras. Là-bas, nous avions, en moyenne, 10 000 conversions chaque soir, 50 000 au total. Pendant la prédication, il parla aussi de la lumière surnaturelle qui avait été photographiée à plusieurs endroits, et il dit, « Il y a un homme de l'Allemagne, ici. » Il était là-bas lorsque l'appareil photo allemand l'a prise trois fois. La photo de la réunion des prédicateurs avec la lumière au-dessus de frère Branham peut être vue sur Internet. C'est vrai, j'ai été témoin oculaire et auriculaire de son ministère spécial. Parce que l'on a fait une grave modification au mandat du 11 juin 1933, nous voulons rapporter ici une fois encore les paroles exactes, ainsi que la version modifiée, à titre de comparaison. L'original, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, ainsi le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Frère Branham a redonné 55 fois de manière exacte ce que la voix avait dit de la nuée surnaturelle. Et, pour que tous les élus puissent le prendre au sérieux et le croire, le 10 février 1960. Et plusieurs fois encore, il a appuyé, non pas que c'est moi qui serai le précurseur, mais le message sera le précurseur. Malheureusement, la version raccourcie a été divulguée peu de temps après son départ dans la gloire, tout comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Ainsi tu es envoyé comme précurseur de la seconde venue de Christ. Le mot principal, message, manque, dans cette version. Nous devons insister encore une fois, que personne n'a le droit de changer la teneur du mandat. Le 7 mai 1946, un envoyé céleste lui dit, « Ne crains pas. J'ai été envoyé vers toi, de la présence de Dieu, pour te dire que ta naissance ainsi que ta vie singulière doivent servir à montrer qu'il te sera donné un don de guérison divine pour les peuples de la terre. » Cela nous rappelle, Luc 1, 19, où l'ange annonça à Zacharie, la naissance et le ministère de Jean-Baptiste. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Les deux mandats de frère Branham doivent être placés dans l'ordre divin de manière biblique. Le premier était relié au message qui devait précéder la seconde venue de Christ. Le deuxième était relié à son ministère évangélique. L'homme envoyé de Dieu a exécuté les deux missions. Ayant reçu l'autorité divine et le don de guérison, frère Branham sillonna les continents et prêcha l'évangile dans différents pays. Au cours des réunions de frère Branham, des guérisons spontanées se produisirent, de la même manière que durant le ministère de notre Rédempteur, les aveugles recouvrèrent la vue, les paralytiques purent marcher, les sourds purent entendre. C'est ainsi qu'en 1946, ce réveil de guérison universelle prit son essor. Avant la prière pour les malades, il s'est référé au moins 280 fois à ce que notre Seigneur a dit dans Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Lui aussi voyait dans des visions ce que Dieu allait faire, et il pouvait le dire à quiconque venait dans la ligne de prière, et l'appuyer par, ainsi dit le Seigneur. J'ai expérimenté cela personnellement dans les réunions. Dès le début, Dieu a conduit à ce que je puisse placer de manière correcte dans la Bible tout ce qui concerne le conseil de Dieu. Mon absolu a été depuis le début, et restera jusque dans l'éternité, la parole écrite de Dieu. Le Seigneur lui-même m'a ordonné de prêcher la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite. Quant au message, il s'agit uniquement de la prédication biblique, qui doit être exempte de toute erreur, et sans aucun reproche. Le 28 novembre 1963, Frère Branham a dit, vous ne devez jamais abandonner la parole. Vous devez rester exactement en accord avec la parole, telle qu'elle est écrite. N'ajoutez aucune interprétation propre. Dites exactement comme cela est écrit. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu et sa parole, c'est pareil, c'est simplement la même chose. Le 19 septembre 1965, il insista encore dans une prédication, « Vous ne pouvez rien accepter, à moins que cela ne se trouve écrit précisément dans la parole de Dieu. Vous devez rester parfaitement en accord avec la parole. » Malheureusement, à côté de la continuité de la pure prédication de la parole selon l'ordre de Dieu, il y eut aussitôt de différentes interprétations. Des frères, qui se réfèrent à frère Branham, ont réussi à rendre leurs propres interprétations crédibles, et à attirer des disciples après eux. Acte 20, 30. Des citations du prophète ont été l'objet d'interprétations et exposées comme doctrine. C'est ainsi que sans cesse, des nouveaux groupes se sont formés. Je n'ai pas participé une seule fois à des discussions au sujet de citations, elles n'apportent que des divisions. Romains 16, 17. La tragédie n'est pas dans ce que frère Branham a dit. Parfois de manière difficile à comprendre, mais dans ce que les frères en font. 2 Pierre 3, 16. Même ce que frère Branham a dit dans la prédication, l'enlèvement, est mal interprété, attestant que le Seigneur serait déjà en train de descendre avec un cri. Le cri de réveil de 1 Thessaloniciens 4, se rapporte à la résurrection des morts en Christ et non pas à ceux qui sont actuellement vivants. À son retour, tout se passera exactement comme cela est prédit dans le chapitre 4, du verset 13 à 18. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Versets 16 et 17. Voir aussi à ce sujet. 1 Corinthiens 15, 45 à 58. Le cri de réveil, qui retentit maintenant par le message, aux vivants, se trouve dans Matthieu 25, voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les vierges entendent l'appel, et vont à la rencontre de l'époux. Dans Matthieu 13, nous trouvons la parabole du semeur qui sème la bonne semence dans son champ. Notre Sauveur dit, dans la parabole, « Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » Matthieu 13, 25. Parlant à ses disciples, il leur expliqua la parabole de la manière suivante, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie. Ce sont les fils du malin. » C'est exactement ce qui s'est passé dans notre temps, tout d'abord, la parole de Dieu en tant que la bonne semence a été semée. Ensuite, l'ennemi a réussi à semer sa semence par des interprétations parmi le blé. Cela est arrivé lorsque les vierges devinrent fatiguées, et tombèrent dans le sommeil spirituel. Toutefois, le blé reste blé. Et l'ivraie reste de même ce qu'elle est. L'histoire des deux semences remonte à Caïn et Abel. L'un haïssait, l'autre était haï. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 2, 11. On peut le dire, celui qui n'a pas un Caïn, pour frère, ne peut pas être un Abel. Dans ce contexte, cet avertissement est primordial. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Matthieu 13, 19. Il est très important que nous croyons et comprenions chaque parole, sans quoi, l'ennemi l'enlève. et sème son interprétation. Le Seigneur demanda à ses disciples, « Avez-vous compris toutes ces choses ?»«
Oui, » répondirent-ils. Matthieu 13, 51.
Qui peut, aujourd'hui, répondre honnêtement oui? Qui a bien compris tout ce qui a été prêché, et écrit en accord avec la parole de Dieu par la commission divine? À qui le Seigneur peut-il déclarer que ses yeux et ses oreilles sont bien heureux? Apparemment, toutes les vierges qui attendaient la venue de l'époux se sont endormies. Toutes se réveillèrent, mais seuls les sages s'endormirent, portant en elles la semence de la parole et se réveillèrent également avec la semence de la parole. Elles étaient prêtes, et pourront entrer dans la salle des noces, parce qu'elles avaient avec elles l'huile dans leur vase, et purent puiser de la plénitude de l'esprit. Les folles se laissèrent envoûter par l'ennemi, dans des interprétations. 2 Corinthiens 11, 3 et 4. Et elles se trouveront devant la porte fermée, et elles frapperont en vain. Matthieu 25, 11 à 13. En rapport avec sa venue, le Seigneur exhorte formellement à la vigilance. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Ce passage des Écritures dément clairement la fausse doctrine qui prétend que le temps de la grâce serait terminé, et que le saint ne serait plus sur le trône de la grâce. Nous sommes encore au temps de la grâce, le Seigneur appelle encore à la repentance, et à sortir de toute confusion spirituelle. Par la grâce de Dieu, nous vivons encore au jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Les faux docteurs qui propagent leurs propres interprétations sur ce que le frère Branham a prêché, n'attireront l'attention que des vierges folles. Encore une fois, il faut que cela soit dit avec insistance, laissez tout ce qui a été dit, tel qu'il a été dit. N'ajoutez rien à la parole écrite de Dieu. Conduit par le Saint-Esprit, frère Branham a mis en lumière tous les mystères cachés. Son ministère unique, et extraordinaire, pour lequel nous sommes reconnaissants à Dieu, est pleinement achevé. Tout lui a été réellement révélé, en rapport avec le plan du salut de Dieu, la divinité, le baptême, le repas du Seigneur, ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden concernant le péché originel. Toute la révélation lui a été accordée, y compris sur les sept sceaux. L'expérience puissante et spectaculaire du 28 février 1963, alors que la nuée surnaturelle apparut et que cette puissante tonnerre, accompagnée d'un tremblement de terre, ébranlèrent toute la région autour du mont Sunset, fut d'une grande importance pour frère Branham en rapport avec l'ouverture des sept sceaux. C'est pourquoi il s'est si souvent référé à ces sept tonnerres. Les sept tonnerres dont il est question dans Apocalypse 10, 3, ne font retentir leur voix qu'au moment où le Seigneur descend du ciel, en tant que l'ange de l'Alliance, entouré d'un arc-en-ciel. Rien de ce qui est contenu dans les sceaux ne s'est réellement produit, pendant que le frère Branham prêcha ce sujet, en mars 1963. L'agneau n'a pas quitté le trône en mars 1963. Ni le sang de la Nouvelle Alliance n'a été ôté du trône de la grâce dans le lieu très saint. Frère Branham n'a fait que répéter ce que l'apôtre Jean a vu, et ce qu'il a écrit sur l'île de Patmos, et ensuite il a prêché sur ce qui lui a été révélé à ce sujet. C'est ainsi qu'il put démontrer, et placer de façon scripturaire, en parallèle avec l'Église, les chevaliers des quatre premiers sceaux, comme étant l'Antichrist, dans ses quatre phases de développement, chevauchant quatre chevaux différents. Dans le cinquième sceau, il a montré qu'il s'agit des martyrs juifs, qui réclament la vengeance. Dans ce contexte, Frère Branham fait même mention d'Adolf Eichmann, qui fut le principal responsable du massacre des 6 millions de Juifs de l'Holocauste. Le prophète est placé de manière correcte également le sixième sceau, Apocalypse 6, 12 à 17, c'est-à-dire le temps de la tribulation, car ensuite commence le jour du Seigneur, le soleil perd sa clarté et la lune se change en sang. Joël 2, 31. Acte 2, 20. Dans Apocalypse 7, 1 à 8, il est question des 144 000 Juifs des 12 tribus d'Israël qui seront ensuite scellés. Depuis le verset 9, jusqu'au 17, il est montré la grande foule venant de tous les peuples et de toutes les langues, laquelle vient de la grande tribulation et qui a lavé ses vêtements dans le sang de l'agneau. À l'annonce du septième sceau, au chapitre 8, les sept anges du jugement, à qui sept trompettes sont données, apparaissent devant le trône de Dieu, pour annoncer les jugements sur la terre. Au chapitre 8 et 9, nous voyons ce qui se passe suite aux six trompettes, qui apportent les jugements sur la terre. Au chapitre 10, l'ange de l'Alliance annonce, avec un serment, ce qui se passera lorsque le septième ange du jugement sonnera de sa trompette. Le mystère de Dieu s'accomplirait. L'annonce faite au chapitre 10 verset 7, trouve son accomplissement au chapitre 11 verset 15, lorsque le règne de mille ans commence. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. » Le résultat du dernier message. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, 2 et 3. C'est quand même singulier que Paul, dans son effort de vouloir présenter à Christ une vierge pure, pensa à la séduction d'Ève. Frère Branham vit l'Église dans une vision, et également l'épouse. Il vit que l'Église était conduite par une sorcière, et qu'il y avait une confusion religieuse. Il vit aussi que l'épouse ne marchait plus au même pas, avec la parole. Et ensuite, comment, après une rectification, elle fut ramenée, au même pas, avec la parole de Dieu. C'est ce qui se passe maintenant, dans le monde entier, par le processus de purification par lequel nous passons, comme dans un bain complet dans la parole de Dieu. Le vrai message parole ne retournera pas sans effet, mais il exécutera dans l'Église épouse la volonté de celui qui l'a envoyé. Les vierges folles s'arrêtent spirituellement auprès du messager, qui nous a montré à tous le chemin. Les sages poursuivent le chemin avec le Rédempteur, jusqu'à l'achèvement. Les sages sont reconnaissantes, et se réjouissent de ce que le Seigneur fidèle a parlé plusieurs fois, à voix audible, à son serviteur fidèle. Matthieu 24, 45 à 47. Et lui a donné des instructions de manière directe. Les folles mettent en doute le mandat. Comme Ève, elles sont séduites, et deviennent la proie du péché d'incrédulité. Elles en font des moqueries, elles méprisent Dieu et passent à côté de ce que Dieu fait maintenant. Acte 13, 41. Les folles croient que le prophète va revenir, et plusieurs autres folies de la sorte. Les sages. Les véritables rachetés, croient au retour de Jésus-Christ. Tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse ont part à ce que Dieu fait actuellement sur la terre. L'Église épouse que Christ a rachetée par son propre sang, est baptisée du Saint-Esprit, est maintenant purifiée par l'eau de la parole, de toute souillure de la chair et de l'esprit, et se tient sans reproche devant Dieu. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens 3, 13. Par la grâce de Dieu, je suis resté fidèle à l'appel et au mandat, et je puis attester avec Paul, mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Actes 26, 22. En ce qui me concerne, l'important est la promesse principale pour la vraie Église, le message-parole qui précède encore la seconde venue de Christ, afin que, dans la vie personnelle de chaque croyant, et aussi la vie spirituelle dans l'Église, tout soit ramené dans l'ordre divin devant Dieu. Le dernier message avant le retour de Christ est lié avec la foi et l'obéissance, avec la séparation et la préparation, et, comme le frère Branham disait, avec l'amour parfait et la foi dans chaque parole de Dieu. Le but proprement dit du mandat divin est en fait que le cœur des enfants de Dieu soit ramené à la foi des pères apostoliques du commencement, et que le Seigneur trouve une épouse bien préparée. Ce que notre Sauveur a dit, dans Actes 1, 5, est encore valable pour nous aujourd'hui. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et aussi ce que l'apôtre Pierre a annoncé lors de la fondation de l'Église du Nouveau Testament, Actes 2, 38 à 41. Repentance, foi, baptême d'eau, et baptême du Saint-Esprit. Pour la pleine restauration de l'Église, tout cela est nécessaire, que ce soit dans le domaine naturel ou spirituel. Celui qui est devenu véritablement croyant accepte l'ordre divin, non seulement dans le domaine spirituel, mais également dans la vie personnelle, dans le couple et la famille. Nous croyons et respectons chaque parole de Dieu, nous acceptons chaque correction, et nous disposons notre vie en conséquence, dans l'obéissance. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Matthieu 12, 50. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, 21. Tous les autres peuvent faire ce qui leur semble bon, le Seigneur prononcera la sentence en ce qui les concerne au jour du jugement. Aux élus, est adressé, assemble, auprès de moi, le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles. Deutéronome 4, 10, Psaume 50, verset 5. Celui qui est de Dieu écoute uniquement la parole de Dieu. Jean 8, 47. Par conséquent, le commandement nous a été donné, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous, un père, et vous serez pour moi, des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 17 et 18. L'apôtre Pierre nous exhorte, mais, puisque celui qui vous a appelé, est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 15 et 16. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5, 9 et 10. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22 et 23. Vous les reconnaîtrez, à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva.
celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Matthieu 25, 10. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux 4, 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, 3 à 10. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. 500e anniversaire. La fin de la Réformation. Le 31 octobre 2017 sera célébré dans toute l'Allemagne comme un jour de fête particulier. Cela fait 500 ans que Martin Luther afficha les 95 thèses à la porte de l'église de Wittenberg, le 31 octobre 1517, procurant ainsi la percée définitive vers la Réformation. Maintenant, toutes les églises chrétiennes qui ont en commun le credo de Nicée retournent dans le sein de l'église mère. Un relief en pierre, sur un mur de l'église de la ville de Wittenberg, datant de 200 ans avant la réforme, montre une truie qui allait, des Juifs. Par cela les Juifs du Moyen Âge devaient être humiliés publiquement. Le conseil municipal, ainsi que le conseil de l'église paroissiale de Wittenberg, ont décidé de ne pas faire l'extraction de cette pierre, appelée « Judensau, truie des Juifs », comme cela avait été exigé, suite à une pétition, mais de la garder, afin qu'elle serve de mémorial contre l'antisémitisme. De cette manière, les visiteurs et les délégations du monde entier peuvent voir de leurs propres yeux le symbole de la discrimination des Juifs. Martin Luther avait expérimenté la justification par la foi. Saisi par l'Esprit de Dieu et rempli de la grâce de Dieu, ce réformateur prêcha l'Évangile. Il croyait dans l'œuvre, accomplie, de la rédemption par la mort du Rédempteur sur la croix. Il ne nous appartient pas de juger sur ce qu'on prétend qu'il aurait dit plus tard, étant vieux et malade, au sujet des Juifs, après avoir été déçu par un médecin juif. Cependant, les historiens ont tendance à garder le silence sur le fait que ces déclarations sur les Juifs tirent leurs origines de délibérations faites par le clergé, particulièrement lors du synode de Latran, en 1179. La haine des Juifs existe depuis très longtemps. Déjà très peu de temps après que l'empereur Constantin ait proclamé le christianisme en tant que religion d'État dans tout l'Empire romain, en l'an 311, la persécution des Juifs commença. À cause de la crucifixion du Christ, ils étaient généralement désignés comme assassins de Christ et de Dieu. En 321, la célébration du sabbat fut interdite aux Juifs, et ils furent forcés d'observer la célébration du dimanche à la place. Sous ce tragique développement, le concile de Nicée eut lieu, du 20 mai au 25 juillet 325. Constantin, qui s'intéressait à l'unité de tous ses citoyens, avait invité les dirigeants des différents courants qui existaient en ce temps-là dans le christianisme. C'est là que des thèmes bibliques furent mis en discussion par des représentants ecclésiastiques païens. Des paroles des saintes écritures furent utilisées, et puis mal employées. La première profession de foi non biblique sur la Trinité, à savoir que Dieu existe en trois personnes éternelles, a été rédigé et confirmé plus tard en 381 à Constantinople. Et la divinité du Saint-Esprit a été proclamée comme étant la troisième personne. La profession de foi biblique ne se trouve que dans la Bible. Et uniquement ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres provient des apôtres. Et seulement ce qui est enseigné dans les lettres des apôtres est la doctrine apostolique. Être fidèle à la Bible signifie croire ce qui est écrit dans la Bible. L'Église primitive demeura dans l'enseignement et la pratique des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Acte 2, 42. La véritable Église de Jésus-Christ est encore maintenant édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20. Le parfait accord entre l'Ancien et le Nouveau Testament est impressionnant. Dès le premier verset de la Bible, Dieu, Elohim, se présente en tant que le Créateur. Au commencement du temps, lui, l'Éternel, qui dans sa nature est esprit, sortant de sa plénitude éternelle d'esprit de lumière et de vie, apparut dans une forme visible en tant que Seigneur, Yahvé. Par sa parole toute puissante, il appela à l'existence tout ce qui est visible, comme aussi l'invisible. Il marcha dans le jardin d'Éden et créa le premier homme à son image. Dans tout l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu avait annoncé par ses prophètes le plan du salut qu'il avait conçu depuis l'éternité. Dans le Nouveau Testament, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier, de nombreux passages témoignent de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Le sujet principal dans l'ensemble des Saintes Écritures était, et demeure, la divinité. Le Seigneur Dieu s'est manifesté de plusieurs manières au cours des 4000 ans de l'Ancien Testament, en tant que Créateur, Conservateur, Roi, Juge, etc. Pour notre salut, il s'est révélé dans le Nouveau Testament en tant que Père dans le ciel, dans son Fils sur la terre et par le Saint-Esprit dans son Église. Dans tout l'Ancien Testament, jusqu'au prophète Malachie, qui vécut 400 ans avant Christ, personne n'a jamais parlé d'un Père dans le ciel, ni une seule fois, à un Fils au ciel. Et non plus de trois personnes éternelles, qui sont d'accord entre elles, et qui forment une trinité, comme cela est représenté sur l'image. Dans l'Ancien Testament, il était principalement question de la venue du Messie, comme Rédempteur. Plus de 100 prophéties se réfèrent au Sauveur, qui, en tant que Fils de Dieu, devait naître d'une Vierge. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un Fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, 5. Michée 5, 1. Dans le Nouveau Testament, la naissance du Fils nous est décrite avec précision. L'ange Gabriel alla vers Marie et dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un Fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 30 à 35. Le Seigneur Dieu se révéla personnellement à Abraham. Genèse 18. À Moïse. Exode 4 et à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Cependant, pour nous racheter du péché, le Seigneur devait se manifester lui-même dans un corps de chair. Depuis sa naissance. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, 11. Le Fils fut appelé 300 fois, Seigneur. Il est toujours le même Seigneur. Hébreux 13, 8. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et que personne ne peut dire, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3b. Il n'existe aucun passage dans les Écritures qui témoignerait que Dieu, en tant que Père, aurait engendré le Fils dans l'éternité. Ce que les pères ecclésiastiques, païens, ont décrété, notamment lors du Concile de Nicée et ensuite à Constantinople, et qu'ils ont appelé le Credo des Apôtres, est totalement étranger à la Bible. Peu importe si cela est écrit dans la Didache, ou dans un catéchisme, ou dans une constitution ecclésiastique, si cela n'est pas écrit dans les Saintes Écritures, alors ce n'est pas biblique. Toutes les églises ont le droit de définir ce qu'elles veulent croire, enseigner et pratiquer. Quant à nous, nous voulons croire comme le disent réellement les Saintes Écritures. Ce que Tertullien, Athanase, Augustin, Jérôme de Stridon, et d'autres, ont dit, cela fut la base pour l'Église d'État dans l'Empire romain. Les croyants bibliques ne peuvent croire que ce que les hommes de Dieu ont établi de la part de Dieu, lors de la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Tout ce qui se réfère à Éphésiens 4, 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, devrait lire, dans les Actes des Apôtres, de quelle manière le baptême était pratiqué par les apôtres. Actes 2, 38. Actes 8, 16. Actes 10, 48. Actes 19, 5. Pas une seule fois dans une forme trinitaire, mais uniquement dans le nom de l'Alliance du Nouveau Testament, dans lequel Dieu s'est révélé, en tant que Père dans le Fils, et par le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, 19, il est écrit dans le texte original, les baptisant dans le nom. Non pas dans les noms, ni dans trois titres. Les apôtres Pierre et Paul, ainsi que Philippe ont exécuté très précisément l'ordre de mission. Rien ne peut être ajouté à ce que les apôtres Pierre, Jean, Jacques, et Paul, ont enseigné, ont fait, et ont écrit. La vraie profession de foi apostolique ne se trouve vraiment que dans la Bible. Le Nouveau Testament est également un document clos, auquel rien ne peut être ajouté, et dans lequel rien ne peut être modifié. Apocalypse 22. Nous pouvons témoigner véritablement, devant le Dieu véritable et tout-puissant, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 2 Pierre 1, 16. Nous avons été ramenés à la parole originale, celle qui est sortie de Jérusalem, et nous pouvons expérimenter ce que Dieu fait dans ce temps le plus important de l'histoire du salut. Le message biblique, par lequel tout devait être ramené dans son état légitime devant Dieu, a atteint les extrémités de la terre. Les cœurs des enfants de Dieu dans le monde entier ont été ramenés à la vraie foi des pères. Le Seigneur Dieu a achevé son œuvre de création, et lui-même achèvera son œuvre de rédemption, en accomplissant exactement ce qu'il a promis dans sa parole. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9, 28. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, 11. Amen. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.